CFM, CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du mag Kestirouer, où avant de recevoir Anna Catino et Nathalie Leroc de la section Petite Enfance de la QRGA, puis l'association Marcel Michel de Stadtfond qui organise un concert pour demain, je vous lis un communiqué de la mairie de Quélus concernant l'eau potable. Les analyses effectuées le lundi 24 juillet montrent une très nette amélioration de la situation sur le réseau d'eau potable. Toutefois, elles ne permettent pas une levée immédiate des interdictions en vigueur. De nouvelles analyses seront effectuées lundi 31 juillet. Les résultats seront connus le jeudi 3 ou le vendredi 4 août. En conséquence, pendant cette période, la distribution d'eau en bouteille se poursuivra au syndicat des eaux le vendredi 28 juillet de 10h à 12h, le lundi 31 juillet de 10h à 12h. Première partie d'édition avec la communauté de communes, Kersirouer, Gorges-Aveyron, pour parler d'un l'AEP, lieu d'accueil enfants-parents, en compagnie d'Anna Catino, directrice petite enfance de la QRGA. Bonjour Anna.
Bonjour.
On a aussi Naya et sa grand-mère Nathalie Leroc, qui est éducatrice jeune enfant et responsable du relais d'assistante maternelle du futur l'AEP. Donc je dis L-A-E-P, mais c'est l'AEP. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Au sein de la communauté de communes, on a plusieurs compétences. On parle de l'aménagement de l'espace, de l'action de développement économique, protection mise en valeur de l'environnement, politique du logement, voirie, école, sport et culture, et les affaires sociales. Au sein des affaires sociales.
Alors, au sein des affaires sociales, il y a plusieurs domaines. On s'occupe effectivement de la petite enfance en aidant les deux associations du territoire qui gèrent la micro-crèche et la crèche par une subvention.
On est également depuis 11 ans responsable du RAM, donc du relais d'assistante maternelle, qui accueille donc une fois par mois sur trois communes les assistantes maternelles afin qu'elles se rencontrent. On est également gestionnaire des centres de loisirs, Quélus, La Guépie, Saint-Antonin notamment, les mercredis, les vacances scolaires. Et au jour d'aujourd'hui, donc, la communauté de communes a décidé d'étendre ses services en proposant donc la mise en place d'un LAEP, donc d'un lieu d'accueil enfants-parents, qui est donc un lieu d'échange, de rencontre, de jeu pour ce public-là.
C'est pas du tout un centre de loisirs, ni une crèche, ni une nounou.
Ce n'est pas un lieu de garde, on ne garde pas les enfants, on les accueille, accompagné d'un adulte responsable qui reste avec l'enfant pendant les 2 heures du temps d'animation.
C'est 2 heures spécifiquement? Comment ça se passe?
Pour nous, ce sera 2 heures.
Oui.
Ce sera de 9h30 à 11h30, compte tenu du fait que ce sera un LAEP itinérant, donc il y a le temps de transport, le temps d'installation du matériel, après le temps de rangement, éventuellement de nettoyage de la salle. Donc l'ouverture au public, c'est sur une matinée, ça sera 2 heures.
Alors, vous parlez de matériel, vous parlez d'itinérance. Comment exactement ça va se passer là?
On a choisi effectivement, étant donné l'étendue de notre territoire, d'être bien présent pour tout, pour que toutes les familles, donc parents, grands-parents, futurs parents, puissent accéder à ce nouveau service. Donc il va y avoir un lieu fixe d'accueil tous les vendredis matins à Quélus, à la salle des associations, donc avenue du Père Huc. Et ensuite, l'itinérance sera programmée le mercredi matin, donc à tour de rôle sur 4 communes, que sont La Guépie. Ce sera donc à l'association Guéloupio, à l'ancienne gare, à Verfeil, à la salle des fêtes, à l'ancienne salle du centre de loisirs, à Parisot, dans la salle de l'accueil périscolaire, à côté de l'école, et à Saint-Antonin-Nobleval, à la salle du premier étage, du rez-de-chaussée, pardon, la salle Prieur Mage, voilà, au niveau de la mairie. Donc là, il y a un planning qui a été établi, qui est disponible sur le site de la QRGA, pour que justement les familles puissent voilà savoir où est le lieu sur le mercredi matin de l'itinérance. Alors pour ça, il y a eu également l'investissement dans un véhicule adapté qui arrive au 1er août pour pouvoir justement contenir tout le matériel pédagogique.
Donc vous proposez des jeux.
Tous les jeux, voilà. Nathalie est très au courant du contenu.
Contrairement aux ateliers parents-enfants qui existaient jusqu'à présent, ces ateliers parents-enfants étaient avec un programme d'activité. Donc sur le calendrier, il y avait la date et aussi l'animation prévue ce jour-là. Pour le LAEP, ça va être complètement différent. La date sera prévue à l'avance, bien évidemment. Mais il n'y aura pas une activité particulière proposée. C'est-à-dire que... Mais du coup, ça va nous obliger, nous, à proposer bien plus de jeux, de matériel disponible, que si je dis, ben, c'est peinture, j'amène que la peinture. Là, non. Si les enfants veulent faire de la peinture, ils pourront. Ils auront la possibilité d'eux, parce que le matériel sera là. Mais ils pourront aussi jouer à la dinette, au garage, aux voitures, enfiler des perles, lire, tout simplement. Voilà. Il y aura, tout le matériel sera à chaque fois disponible.
Et ça permet non seulement aux enfants de pouvoir avoir une petite activité, mais aussi aux parents de se rencontrer.
Le but, c'est plutôt que les parents se rencontrent entre eux, les enfants entre eux, mais aussi que le parent puisse passer du temps avec son enfant par le biais du jeu. En fait, c'est voilà. Là, c'est un endroit où on n'aura pas le portable qui va sonner, parce qu'on va demander aux familles d'éteindre leur portable. Il y aura pas, mince, j'ai laissé la casserole de lait sur le feu. Non, ce sera 2 heures consacrées, voilà, que à jouer ensemble ou parler avec d'autres parents et que les enfants puissent...
Alors donc effectivement, il y a plusieurs objectifs dans un LAEP. Bien évidemment, c'est pour que les enfants donc aient l'occasion de se socialiser, pour les enfants qui sont pas chez une assistante maternelle, qui sont pas dans une crèche, qui vont pas à l'école, étant donné qu'on accueille jusqu'à 6 ans. Donc ça concerne également des enfants entre 3 et 6 ans qui pourraient être scolarisés. Donc il y a ce temps de jeu. C'est un temps également pour que les parents, grands-parents, voilà, adultes responsables se retrouvent entre eux pour souffler, pour échanger sur ce qu'ils vivent dans leur relation, voilà, avec leurs enfants. Bien évidemment, l'objectif est de favoriser la relation entre un parent et son enfant. C'est pour ça qu'il y a tous ces jeux et tout ce matériel mis à disposition. Et tout ça, c'est possible parce qu'effectivement, le LAEP, contrairement aux ateliers parents-enfants actuellement mis en place, il y a une deuxième personne. Donc Nathalie sera accompagnée de Manon, qui est animatrice professionnelle. Du coup, ça permet tout le temps d'avoir quelqu'un qui effectivement est présent autour des enfants, qui favorise les échanges, qui peut faire effectivement créer du lien. Et il y a tout le temps quelqu'un qui est disponible également pour les parents, répondre à leurs questions de tout ordre, renvoyer sur d'autres personnes, réorienter. Voilà, tout ça se passe autour d'un café, d'une collation pour les enfants, bien évidemment, d'un goûter. L'objectif, c'est que ce soit un moment très agréable pour tout le monde, que chacun vienne s'y enrichir et puisse repartir ensuite au sein de sa famille, un petit peu regonflé pour que les relations familiales se passent mieux.
Oui, parce que c'est pas toujours facile pour les parents, par exemple, célibataires ou qui ont pas forcément les moyens de prendre le temps, tout simplement. Hein, on peut être facilement surbooké.
Très facilement.
Très facilement. Mais c'est accessible à qui ? Comment on s'inscrit ?
C'est sans inscription. C'est gratuit, donc c'est un lieu libre. On n'est pas obligé de venir aux 2 heures. On peut arriver à 10 heures, à 10h30, juste passer une demi-heure, repartir. Il y a aucune obligation, étant donné que, comme le disait Nathalie, c'est pas un atelier qui est programmé. C'est vraiment un lieu de passage où on vient et on en repart quand on veut. C'est anonyme. On garantit effectivement l'anonymat dans ce qui s'y passe. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. On a de toute façon un règlement, une charte. L'objectif, c'est que les deux accompagnateurs, ils sont bien là dans la bienveillance. Donc, de toute façon, il y a une charte effectivement de bonne conduite et un règlement qui reprécise tout ça. Voilà, l'objectif, c'est que chacun se sente libre de s'exprimer.
C'est un espace bienveillant, tout simplement.
C'est ça, c'est un espace bienveillant, un espace ressource. Notamment, dans ce cas-là, si on parle ressources, on va mettre à disposition des livres, bien évidemment, pour les enfants sur place. Mais on a également constitué une bibliothèque pour les parents, grands-parents, futurs parents, avec plein d'ouvrages, sympas à lire pour pouvoir les aider au quotidien dans leur rôle, dans leur rôle respectif. Donc, c'est des livres qui seront empruntables, sans laisser non plus de coordonnées. On a plusieurs exemplaires de plusieurs livres. L'objectif vraiment, c'est d'être à disposition des familles.
Comment vous avez décidé de mettre ça en place ? Quel besoin est-ce que vous avez remarqué au sein de la population, de la communauté de communes ?
Alors, comme on le disait, en fait, il y a déjà des ateliers parents-enfants qui fonctionnaient. Ils ne fonctionnaient qu'une fois par mois sur 3 communes. Par rapport à la fréquentation, par rapport à un diagnostic, un état des lieux de la population qui a été réalisé par la CAF, on sait que voilà, sur notre territoire, il y a de plus en plus de familles monoparentales des besoins. On croise beaucoup de données en fait, et notamment parce que sur le Tarn-et-Garonne, on était le dernier territoire à ne pas être doté d'un LAEP. voilà, conventionné, on va dire. On offrait un service à la population qui était totalement à charge de la communauté de communes, mais voilà, on n'avait pas la deuxième personne, on n'était pas assez présent. Donc c'est pour ça, c'est un petit peu tout ça qui a fait qu'on a transformé ça finalement dans un vrai lieu d'accueil enfants-parents, avec deux intervenants, avec deux matinées par semaine. Donc voilà, pour répondre aux besoins en fait.
Et par qui est-ce qu'il est conventionné, ce LAEP ?
C'est donc un service qui est financé par la CAF dans le cadre du contrat enfance-jeunesse et de la prestation de service. C'est le même cas pour la MSA, de laquelle en plus exceptionnellement on a obtenu une subvention pour le matériel pédagogique et la journée d'inauguration que l'on fera en fin d'année bien évidemment. Et ensuite, on a également donc des conventions de partenariat avec les 5 communes qui nous accueillent toutes les semaines, voilà, dans leurs locaux. On les en remercie. Hein. Sans ça, on ne pourrait pas effectivement permettre ce maillage territorial et on ne pourrait pas être présent partout.
C'est utile pour tous. Hein.
C'est utile partout. C'est vraiment un service à la population du territoire, voilà, dans une vision territoriale, effectivement, voilà, de notre communauté de communes. Donc c'est un projet qui va démarrer à la rentrée de septembre, donc le mercredi 6 septembre, en commençant par la commune de Saint-Antonin-Nobleval. Donc ensuite, le planning détaillé sur toute l'année 2017-2018 est déjà établi et il est consultable sur le site de la QRGA, à l'onglet Petite Enfance, mais également dans les brèves d'actualité. Donc moi j'invite voilà toute famille, parents, grands-parents, futurs parents à venir voilà participer, échanger, être présent avec son enfant et en profiter.
Et c'est libre, gratuit, sans inscription. Il suffit de venir le jour même avec son enfant, tout simplement.
Tout à fait. La seule obligation, sauf pour les futurs parents, c'est d'être effectivement accompagné d'un enfant de moins de 6 ans.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Anna Catino, je rappelle donc que vous êtes directrice petite enfance de la QRGA. On était aussi en compagnie de Nathalie et de sa petite fille Naya qui sont parties pendant l'enregistrement parce que Naya n'avait pas son doudou. Merci beaucoup. On reprend de vos nouvelles très rapidement hein, pour voir comment ça fonctionne. Hein.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Après une pause musicale, j'accueille Gérald Jazédé et Gérard Kay de l'association Marcel Miquel de Sept-Fonds.
Mag, tous les jours, 12h30.
Le Mag, Kerstirouerg, deuxième partie d'émission, en compagnie de l'association Marcel Michel, une association qui s'occupe de la restauration et de l'entretien du patrimoine religieux du secteur interparoissial de Sept-Fonds. Bonjour Gérald Jazédé, vous êtes le président de cette association.
Bonjour.
Ainsi que Gérard Kay, qui est le secrétaire.
Bonjour.
Alors vous êtes ici en studio pour nous proposer un concert que vous organisez, il me semble, pour demain.
Tout à fait. Demain, à 20h, à l'église Saint-Blaise de Sept-Fonds.
Alors c'est un concert orgue et saxophone, un mariage un petit peu original. Il se compose de deux parties. Une première partie avec des pièces classiques qui sont souvent des transcriptions, sauf la toute première, concerto pour hautbois. Alors ceci parce qu'il y aura deux saxophones, le saxophone aigu, celui qui ressemble au hautbois, le saxophone en si bémol, et une deuxième partie, après un intermède d'orgue seul pour faire reposer le soliste, une deuxième partie avec le saxophone que nous connaissons bien, le saxophone pipe en mi bémol, cinq notes plus bas, avec des pièces qui ont besoin d'un instrument soliste.
Alors, c'est pas tellement dans votre habitude, il me semble, d'organiser des concerts. Alors, ça correspond bien justement avec le patrimoine que vous souhaitez restaurer. Mais vous, votre activité, c'est justement de restaurer un orgue, il me semble, une chapelle. Donc, enfin, c'est bien d'organiser des concerts après pour la finalité, forcément. Mais c'est votre fonction première ?
Pas d'organiser des concerts. Notre fonction de première est de faire vivre ce patrimoine que nous avons restauré, et tout en surveillant le reste du patrimoine, bien sûr. Et les concerts sont une partie importante de la survie de l'orgue, puisque un orgue, ce n'est pas comme un instrument électronique qu'on réglerait une fois pour plusieurs années. C'est toujours en déséquilibre, et il faut le faire entretenir régulièrement. Et le bénéfice des concerts, quand il y en a, sert entre autres à assurer ce contrat d'entretien. Et voilà. Et puis un orgue, il faut qu'il vive, en dehors, bien sûr, des liturgies, une fois par mois, puisque on peut pas se le permettre, dire plus, enfin, dans l'état actuel des églises et du nombre de prêtres, mais donc le concert sont un complément intéressant à plusieurs niveaux pour la vie de ce patrimoine.
Patrimoine que vous, donc, vous œuvrez pour restaurer.
Oui, tout à fait. Donc là, c'est la vocation de notre association. Notre association qui existe depuis janvier 2011. Et nous avons déjà deux réalisations à notre actif. Mais l'orgue était l'objectif fondateur de l'association. Cette association est née à l'initiative de l'abbé André Pénavert, qui était curé de Sept-Fonds à l'époque. Et avec pour objectif, donc je le répète, la restauration de l'orgue. Mais entre-temps, la commune a lancé des travaux de confortement d'une chapelle, une chapelle cistercienne, et nous avons placé l'objectif de l'orgue en seconde position pour nous lancer dans la restauration intérieure de la chapelle, donc, qui a été inaugurée en 2012. Et quant à l'orgue, nous avons entamé les travaux, les démarches de suite après. Et donc il a été transporté, puis ramené en pièces détachées, etc., remonté dans l'église. Tout cela donc entre l'année 2013 et 2014 pour être inauguré en mai 2015.
Voilà. Vous avez été plutôt rapide, mais quand vous parlez de restauration, par exemple, de la chapelle, vous êtes allé, vous, avec vos pioches et vos maillets pour refaire l'intérieur? Comment ça se passe? Vous êtes des bénévoles?
Tout à fait. Nous sommes une équipe de bénévoles. L'association comprend plus de 130 membres, mais en fait, c'est surtout les membres qui constituent le bureau et le conseil d'administration qui sont les plus actifs. Après, bon, il y a d'autres personnes extérieures à l'association aussi qui nous ont aidés pour certaines choses. Après, nous avons effectivement, n'avons pas la compétence de faire du jointoiement de pierre ou de pose de carrelage. Donc là, on a fait appel à des professionnels, évidemment.
Et concernant la restauration d'un orgue, c'est quelque chose... Alors déjà, il faut trouver le facteur qui va être capable de le faire. C'est quelque chose de quand même plutôt hors du temps, maintenant, on peut dire.
Alors, l'orgue, nous l'avons fait réexpertiser en 2011-2012 pour voir ce qui restait. Il était entreposé dans une ancienne usine de chapeaux de Sept-Fonds, puisque vous savez qu'il y a un patrimoine industriel un petit peu à l'abandon qui est repris ici ou là. Et donc, dans les devis qui étaient très élevés, puisque souvent c'était des facteurs d'orgue de grande ville, nous avons trouvé quand même une offre à du facteur Sébastien Rebet de Villeneuve d'Aveyron, qui était d'un prix raisonnable et dans nos moyens à peu près, dans ce qu'on pouvait imaginer gagner d'un appel à don, en somme d'une offre d'un plan de sauvetage de cet orgue, et ça s'est fait donc moyennant le transport de toutes ces pièces dans son, parce que ça ne pouvait pas être remonté et restauré sur place directement, il a fallu le transporter à côté de Villeneuve d'Aveyron, là où il a son atelier, et voilà, ça s'est fait en un peu moins d'un an. Ensuite, retour à cette fond, remontage, réglage et inauguration. C'est un orgue, je vous dis deux mots sur l'orgue aussi, oui. C'est un orgue qui date de la fin du 19e siècle, de la première école de facteurs Puget de Toulouse. Mmh. Voilà, et il a été acheté d'occasion au début du 20e siècle, inauguré une première fois avec un nombre de jeux restreints, 9 jeux seulement en 1910. Ensuite, il a fonctionné quelques années pour la liturgie. Bien sûr, il n'était pas question de concert à l'époque. Il a été restauré de nouveau, complété et électrifié dans les années 1930 par le Puget successeur, ensuite Puget fils. Et il a fonctionné jusqu'aux années 60, jusqu'à l'époque où nous étions petits, on l'entendait dans la liturgie. Et ensuite, il a été petit à petit abandonné et démonté à l'occasion des travaux de rénovation de l'intérieur de l'église Saint-Blaise elle-même. Voilà, et ensuite, mon président a dit tout à l'heure qu'il a été remonté, restauré et réinauguré en 2014-2015. Donc il y a toute une histoire derrière, il faisait partie vraiment du patrimoine de cette fond. C'est un grand vieux meuble de style un petit peu néo-gothique, à le voir comme ça de l'extérieur. Et avec les jeux, il présente une palette sonore importante pour à la fois accompagner la liturgie. Comment ?
Il y a combien d'octaves ?
Il manque le fa supérieur, si vous voulez. Il manque 5 notes par rapport à l'orgue de Montauban, par exemple. L'important, c'est qu'il a 16 jeux. Maintenant, il a été enrichi petit à petit. Toutes les possibilités de place à l'intérieur pour les rangées de tuyaux et sur le clavier telles qu'elles étaient prévues. Parce qu'on peut ajouter des tuyaux à l'intérieur, mais on peut pas ajouter des notes sur le clavier. Sinon, il faudrait tout scier et recommencer. Donc, total, ça fait un instrument de 16 jeux assez variés, même si certains sont disposés de façon un peu originale pour tel ou tel organisme qu'on peut inviter. Et il peut permettre de faire face à un répertoire assez varié, assez étendu dans le temps, comme pour notre concert qu'on va offrir.
Comment ça s'appelle quelqu'un qui joue de l'orgue ? Un orguiste ?
Un organiste.
Un organiste.
Et un facteur d'orgue ou organier pour celui qui le répare.
Alors, il y a des gens qui jouent de cet orgue-là ? C'est-à-dire que vous l'avez restauré, il fonctionne parfaitement et tout, mais il faut que ça vive.
C'est moi qui m'en occupe pour les liturgies, tant bien que mal, parce que la chorale s'est réduite beaucoup, le nombre de messes aussi, comme je vous l'ai dit. Mais enfin, pour la liturgie, une fois par mois, c'est moi qui m'en occupe. Et c'est moi qui assure les relations avec le facteur d'orgue et qui ouvre l'instrument, comme pour ce matin, là, et qui met tout en place pour les répétitions quand il y a des solistes. Donc il vit sur place à cette fond, oui.
On peut venir pour l'essayer ?
Oui. Oui, il y a une dame d'Albi qui est en vacances à Caylus l'été, à qui j'ouvre l'orgue une fois par semaine.
Bah oui, c'est quand même passionnant. C'est pas un instrument qu'on a l'habitude de croiser tous les jours et encore moins qu'on peut approcher, en fait.
Mais enfin, c'est un instrument très difficile, hein, puisque je rappelle qu'il y a le pédalier sur lequel on ne pompe pas, ce n'est pas un harmonium, contrairement à ce que croient des gens, même musiciens. Le pédalier, il y a 2,5 octaves, même 3,5 octaves. Et donc ça, plus le réglage des jeux, parfois en cours de morceaux, donc ça ajoute beaucoup de difficultés. C'est un instrument très complet, en somme.
Il fonctionne bien, là, il est bien accordé?
Ben, j'espère, puisque l'accordeur était présent hier.
Bon.
Il passe 2h30, nous avons un contrat d'entretien qui prévoit 3 passages plus un si besoin est, et en général, il y a besoin. Et ça nous permet de pouvoir le faire jouer sans trop de... Sinon, l'orgue, oui, on pourrait le définir comme la harpe de façon ironique. On passe la moitié de son temps à l'accorder et l'autre moitié à jouer faux. Mais c'est pas vrai quand l'accordeur vient de passer, en tout cas.
Bon, l'orgue est prêt. Je pense que les saxophones aussi, tout ça, donc en vue d'un concert, c'est demain. C'est à quelle heure ?
20h.
À l'église Saint-Blaise de Sept-Fonds. C'est l'église paroissiale.
C'est l'association Marcel Michel qui vous propose cet événement. Une église, donc quelque chose en l'occurrence qui sonne particulièrement bien. On pourrait y accueillir un orgue et le saxophone, donc les deux fonctionnent plutôt bien ensemble. C'est Bernard Laborde et Jean-Pierre Bousquet qui seront aux manettes des instruments.
Jean-Louis Bousquet, pardon.
Ah, il y a marqué Jean-Pierre sur le petit flyer.
Non, c'est Jean-Louis.
Jean-Louis Bousquet.
Ah, petite erreur, c'est pas grave.
Merci beaucoup Gérald Jazédé et Gérard Kay d'être venus en studio aujourd'hui pour nous en parler.
Merci à vous.
Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir.
Le Mac Air Cirouerg, c'est terminé pour aujourd'hui, mais retrouvez toutes les émissions en podcast sur le cfmradio.fr.